Bonjour à tous et à toutes pour ceux qui viennent d'arriver. Désolé pour le retard. Évidemment, dans une journée punk, l'obligation, c'est pas d'avoir les horaires précis. Hein. Donc, cet après-midi, donc deuxième partie de cette journée d'études consacrée à la scène punk au Havre. Donc, on va avoir 4 interventions. D'accord. Ensuite, on laissera le temps de parole à la salle s'il y a des questions. J'espère qu'il y aura des questions. 16h30, il y aura une table ronde avec les acteurs anciens et moins anciens de cette scène havraise. Et on terminera avec une conclusion, hein, principe 17h30, donc à 18h30, principe, ça devrait être terminé, on verra bien. Dans un premier temps, voilà, première intervention. Donc, je ne sais pas si je vais écorcher le nom, mais Lorenzo Navone, qui est, alors j'ai pris mes notes, hein, donc qui est ATER, donc attaché temporaire d'enseignement à l'Université de Strasbourg, sociologue, et qui va présenter son travail autour de Gênes et essayer de comparer cette ville portuaire avec ce que pourrait être le Havre.
1976 et 77 sont, pour convention, reconnu comme les années de l'explosion du punk dans les mondes anglo-saxons et ailleurs. En Angleterre, il sort Nevermind the Bollocks, les premiers albums de Clash, les premiers albums de Damned, et aussi les Heartbreakers. Il sort en Angleterre Like a Motherfucker. Il sort aussi The Television aux États-Unis. Les Ramones, il produit 3 albums. En Italie, en 1977, c'est l'année où l'aventure des mouvements radicaux de contestation politique rejoint son sommet. Qu'est-ce qui se passe à Gênes ? À Gênes, il sort un album d'un ouvrier, il s'appelle Francesco Curra. L'album s'appelle Rhapsodia Meccanica, Rhapsodie Mécanique. Il sort en 300 copies, et à l'époque, presque personne ne s'aperçoit de cet album. Il est encore inconnu, presque. Francesco Curra n'est pas un musicien, il est un ouvrier. Il travaille à la fraiseuse dans une des grandes entreprises d'État où on fait de la sidérurgie. Et il enregistre les sons de l'usine et il cite ses collègues parmi les musiciens de l'album. Dans la cover de son album, on voit sa fiche de paye, les noms de l'entreprise qui est Ansaldo, et sa photo signalectique. Si on veut écouter un moment, un morceau. Écoutez ça, ouais. Je ne sais pas comment appeler ce genre, c'est du avant-prog, électro, industrial, peu importe, mais ce n'est pas du punk. Ça, c'est ce qui émerge. Au moins, ce n'est pas du punk dans le sens canonique du terme. Ce qui est intéressant, c'est le fait que cet album, c'est les témoignages d'une époque. Lui, Francesco Corra, il parle d'aliénation, de bruit, d'usine, de lutte et de contestation. Et il nous introduit dans le contexte de la ville et dans le contexte industriel, musical et politique de Gênes pendant les années 70. Gênes, à l'époque, est une ville ouvrière. Elle fait partie de ce qu'on appelle les triangles industriels, c'est-à-dire Gênes, Turin, Milan. Il y a un énorme port, c'est le plus important d'Italie, et l'industrie de la sidérurgie. Du point de vue musical, depuis les années 60, à Gênes, il y a ce qu'on appelle l'école génoise, des chansonniers, des cantautori, on les appelle en italien. C'est-à-dire, et c'est une école, on l'appelle école, qui a révolutionné la musique pop italienne. Plus tard, il y aura, vers les débuts des années 70, il arrivera les prog et un certain pop un peu plus cultivé. Mais, donc ça c'est plus ou moins la scène musicale, surtout de André, c'est la plus connue. Du point de vue des processus politiques, Gênes est une ville aux marges, on peut dire. Ce n'est pas un centre de décision, mais elle assume un certain degré de centralité dans la vie politique italienne grâce à certains événements clés qui ont lieu à Gênes et qui ont modifié les contextes politiques italiens. Ça vaut la peine de les nommer très vite, parce qu'il donne à Gênes l'idée que sa marginalité est quand même centrale dans l'histoire d'Italie. En 1892, il fonde à Gênes le Parti des travailleurs italiens, qui deviendra plus tard le Parti socialiste. En 1945, le 25 avril, Gênes est la première ville du nord d'Italie libérée directement par les partisans, et la division de 6000 hommes du général Meinhold est obligée à marcher désarmée dans les centres-villes, escortée par les partisans. En 1960, il y a une énorme révolte à Gênes liée au fait que un parti néofasciste qui s'appelle le Mouvement Social Italien, qui appuyait le gouvernement de l'époque, voulait faire son conférence nationale à Gênes. Il y a 3 jours de révolte à laquelle il suit d'autres manifestations dans d'autres villes et le gouvernement de Tambroni est obligé de démissionner 20 jours après. En 1965, à Gênes est fondé un parti non parlementaire qui s'occupe de promouvoir l'orthodoxie marxiste-léniniste, ça s'appelle Lotta Comunista. C'est assez important parce qu'il était très présent dans les usines. Entre 1979 et 1971, il y a un groupe qui s'appelle 22 octobre. C'est la première formation armée d'inspiration marxiste qui opère en Italie. Ils ont fait surtout des braquages, des communiqués à travers des interférences de piratage de la radio. Un kidnappage, je ne sais pas comment on dit, un enlèvement d'un fils d'un industriel et un homicide pendant un braquage qui a été photographié par la fenêtre. Dans les mêmes années, en 1969, à une trentaine de kilomètres de Gênes, des étudiants de sociologie de Trento, ils font une conférence et là-bas, une partie d'entre eux décide de fonder les Brigades Rouges. Ils passeront à l'action quelques années plus tard. Mais la date de naissance, c'est le 28 novembre 69. En 74, la colonne génoise des Brigate Rosse enlève un juge qui s'appelle Sossi. Et il voudrait traiter avec l'État pour libérer les prisonniers du groupe 22 octobre, qui en ce moment était en prison. Ça, c'est les premières attaques au cœur de l'État, comme ils les appelaient. 2 ans plus tard, les Brigades Rouges, ils tuent un juge qui s'appelle Francesco Cocco, lequel avait refusé de négocier avec les BR. Peu plus tard, un militant communiste syndicaliste qui avait dénoncé un militant irrégulier des Brigate Rosse dans Little Cedar, qui est une usine sidérurgique, est tué par les Brigate Rosse. Et quelques mois plus tard, le mec le Berardi, qui avait été dénoncé par lui, il se suicidera dans la prison de haute sécurité de Cuneo. Les Brigades Rouges, la colonne génoise, est exterminée en 1980, en Via Fracchia, 4 morts. Et ça, c'est le début de la fin du parti armé en Italie. Après ça, il commencera un énorme procès de militarisation de la répression qui portera à l'usage de la torture en prison et à des arrestations massives. Si on veut continuer un petit peu avec l'histoire des Gènes, on sait qu'en 2001, il y a eu le G8 et encore le fondateur du parti presque fasciste New Age qui s'appelle Mouvement 5 étoiles est un comédien génois. Juste pour dire le fait qu'il y a une série d'événements de la vie politique italienne qui est très liée à Gênes. Mais qu'est-ce qui se passe en 1977? Alors, l'année avant, en 1976, la Cour constitutionnelle décide la fin du monopole radiophonique de la RAI. Donc, il commence à se développer des radios commerciales, mais aussi des radios libres et des radios pirates. Cet événement-là permet la diffusion de musique qui était complètement absente de la radio à l'époque. La radio transmettait que de la musique classique, de la disco, et la musique mélodique, genre Sanremo, etc. Et même dans le milieu militant, était diffusé, dans le milieu alternatif, disons, était diffusé les progressive rock. Surtout Area, Premiata Fornania Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, etc. Les mouvements de la gauche extraparlementaire, ils sont à leur apogée en termes de mobilisation et de capacités organisatives. Et ça, c'est ce qui rend unique la scène punk italienne, c'est le fait que ces mouvements, ils naissent directement à l'intérieur de la gauche extraparlementaire. Et c'est ça ce qui rend unique dans les panoramas européens, à mon avis. Le fait qu'il sort d'un mouvement qui était un des plus impressionnants en Europe. On peut dire que le punk est le prolongement du politique avec d'autres moyens. Et c'est dans ce contexte-là qu'un groupe de jeunes sur les 20 ans, à côté de Gênes, ils fondent tout d'abord une petite radio qui s'appelle Radio Blue, et commencent à diffuser de la musique alternative. Ils allaient acheter les vinyles à Milan ou parfois quelqu'un entre eux à Londres. Donc c'est le fait que la radio est libéralisée permet la diffusion de cette musique, d'une musique nouvelle. Et il y avait aussi donc les punks dans ces musiques. Les mêmes personnes qui gravitaient autour des mouvements de la gauche, des Gènes, ils fréquentent l'Académie des Beaux-Arts. Et ils travaillent tous comme vignettistes, ils font des BD, des choses comme ça. Et ils commencent à produire une petite fanzine dont vous avez le livre quelque part, qui s'appelle Les Silures d'Europe, dont ils sortiront 3 numéros. Les mêmes gens de la radio et du Silure, ils fonderont peu plus tard un groupe qui s'appelle Dirty Actions, qui sera le plus important groupe punk new wave actif à Gênes parmi les 79 et les 82. Avec Dirty Actions et grâce à la diffusion des radios, tout un ensemble de groupes se forme en ville dont les noms, ils existent. C'est la seule chose qui reste de ces noms parce qu'aucun, presque aucun de ces groupes n'arrive pas à enregistrer un seul album ni en 45 tours, en 45, comment dit, en 45. Et donc seulement les Dirty Action arriveront à enregistrer une chanson qui sera publiée soit comme 45, soit dans un 33 collectif qui s'appelle Rock 80 par la Cramps Record de Milan. Ils ouvriront en 1980 les concerts de Damned à Milan. Le seul autre groupe qui arrivera à produire une chanson, ça sera, ça s'appelle Scortilla. La chanson, ça s'appelle Fahrenheit 451, mais c'est en 1984, et c'est déjà désormais New Wave. Des témoignages que j'ai pu rassembler, ça émerge comme le punk à Gênes se diffuse grâce aux radios alternatives et aussi grâce à certains clubs comme le Psycho Club, dans lequel il y aura une série de concerts de groupes locaux et nationaux. Mais la diffusion du punk, c'est aussi un choix stratégique. Parce que les prog, qui c'était en Italie, la musique alternative à l'époque, c'était trop difficile à jouer. Donc, l'arrivée du punk a libéré des possibilités expressives qu'avant, on n'avait pas. Parce que les prog demandaient des compétences musicales que les gens n'avaient pas forcément. Donc, ce qui émerge de la chaîne punk génoise, c'est que le punk, il naît comme imitation des peu des images qui circulaient de l'Angleterre à travers les médias ou qui venaient d'autres villes qui étaient plus à l'avant-garde que Gênes, comme Milano, Bologne ou Pordenone. Mais ce qui est intéressant, c'est le processus de resignification qui est opéré à partir des vêtements. Ça, qu'on appelle chiodo, c'est les blousons en cuir, était quelque chose de plutôt rare. Ils étaient un symbole de distinction, parce que la plupart des punks réadaptaient les vêtements de ses parents ou de ses grands-parents. Et surtout, à l'époque, il n'existait presque pas les jeans, comme on dit, à cigarette en Italie. Il n'existait presque que les jeans à pattes d'éléphant. Donc, ils devaient demander à leur mère de les recoudre pour les adapter à cette nouvelle vague. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait que si les punks à Gênes et en Italie, ils réinventaient un genre et une esthétique, une culture qui provenait du monde anglo-saxon avec leurs moyens et l'adaptaient à leur contexte socioculturel. Les mêmes années, et ça c'est par exemple, je vous montre, ça c'est habillé comme leurs parents, dans les mêmes années, c'était le 30 avril 1978, Joe Strummer, il faisait les parcours en vert. Il y a un concert à Londres qui s'appelle Rock Against Racism. Ici, il s'habille avec un t-shirt dans lequel est écrit Brigade Rosse. Il y a aussi une faute d'orthographe, ce qui rend encore plus ridicule ce qu'il fait. Et il associe les symboles de la Rotterdamie Fraction aux Brigades Rouges. Il était fasciné par un pays dans lequel il y avait un mouvement social de masse, de contestation de masse, dans lequel les partis armés étaient en guerre ouverte contre l'État, et dans lequel même les partis communistes ils administraient des villes, des grosses villes comme Gênes, Bologne, par exemple. Mais en faisant ça, à mon avis, ce qu'il fait, c'est d'exotiser l'Italie. Et il l'a construit comme si c'était quelque ailleurs un peu romantique et révolutionnaire. Ce qui arrive assez souvent quand des étrangers regardent les années 70 italiens. Malgré ça, la première vague du punk en Italie et à Gênes est assez... Bref, 2 ou 3 ans. Après, ça se termine. Si on regarde la discographie, il y a des livres dans lesquels on traite de ça, la discographie du mouvement punk... 5 minutes. Du mouvement punk en Italie, il n'y a presque aucun groupe actif en 1977-18 qui poursuit sa carrière après 81-82. La fin de la première génération punk est associée par les protagonistes mêmes à 2 événements. L'arrivée et la consommation en masse de l'héroïne, qui, à partir des années 80, inonde le marché, et la vague de répression qui a complètement tué les partis armés et les mouvements politiques. On peut considérer qu'en Italie, entre les années 70 et 80, il y a eu au moins 5000 personnes emprisonnées et 100000 personnes qui ont été différemment, mais qui ont été sous enquête ou en procès, etc. C'est énorme. À Gênes, la fin du mouvement punk coïncide, on peut la faire coïncider avec trois éléments. La crise démographique de la ville. En 1971, il y avait 800 000 habitants. 10 ans après, il y a déjà 50 000 habitants de moins. Et ça continue à baisser. Les projections pensaient qu'on serait arrivé à 1 million. Et c'était exactement le contraire. Maintenant, il y a à peu près moins de 600 000 habitants. La deuxième chose, c'est que l'industrie, qui était industrie d'État, entre en crise. Et peu à peu, les industries ferment. La troisième chose, c'est la transformation de la production. On passe de la production matérielle à la logistique. Donc, il n'y a plus besoin de produire. Gênes devient une ville où les marchandises passent et sont gérées, mais ne sont plus produites là-bas. Donc, du point de vue politique, destruction des mouvements. Industriellement et du point de vue démographique, c'est la crise. Et même du point de vue musical, les années 80 ne portent rien à Gênes. Il y a toujours les mêmes, sauf les punks. On peut faire un petit parallèle avec Weber. Dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Weber soutient qu'il n'y a pas un rapport de causalité directe, mais que l'éthique protestante crée les conditions pour la naissance du capitalisme. Je crois qu'à Gênes, c'est plus ou moins la même chose. Ceux qui avaient créé les conditions pour la naissance du punk créaient aussi les conditions pour sa fin. Et pour la fin aussi, disons, de la culture alternative. Ce qui est intéressant de ça, de cette scène musicale, c'est que c'était aux marges d'une scène nationale qui, déjà, à niveau international, était plutôt périphérique. Donc, c'est un phénomène peu étudié, mais intéressant, et je crois que ça mériterait d'être approfondi. J'ai terminé.
Merci, Lorenzo.